Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir, komm mit mir aus bloß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. Und femme, c'est sur Radio Zone 93.8. Et c'est tous les mercredis. Et aujourd'hui mercredi, bienvenue dans Remue Ménage, Onde Femme Radio Zone 93.8. Aujourd'hui mercredi, nous sommes en direct, nombreuses dans le studio de Ferney, puisque je suis en compagnie d'Isabelle Eklin et de Mé Piaget, deux femmes genevoises qui sont parties sur le train de la paix qui a effectué le trajet Helsinki-Pékin au mois d'août dernier, organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Peut-être en avez-vous entendu parler, ou bien peut-être sous le titre WILF, puisque c'est leur sigle anglophone qu'elles se font connaître. Alors, bienvenue Isabelle, bienvenue Mé.
Bonjour.
Et donc, nous allons partir, nous aussi, à notre façon, sur ce train, puisque Isabelle et Mé nous ont rapporté toutes sortes de sons, on va les qualifier comme ça d'abord généralement, du temps qu'elles ont passé dans ce train, mais tout de suite, elles nous ont raconté, bien sûr, pourquoi elles sont parties dans ce train, quel était leur propre projet, en dehors du projet du train lui-même, qui était donc organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Alors, tout d'abord, précisons que Mé est journaliste dans son travail de la vie de tous les jours, et c'est bien sûr lié à cette activité qu'elle a décidé de partir. Qu'Isabelle, vous la connaissez bien, elle est très branchée cinéma. On est déjà partis souvent ensemble au Festival international du film de femmes de Créteil. Nous avons traîné nos micros aussi dans des manifestations comme le Conseil national des femmes, par exemple. Donc, nous la retrouvons, vous la retrouverez certainement avec joie parce que vous la connaissez. Et Isabelle, eh bien, comment on dit que tu es assistante de laboratoire, c'est ça Isabelle? Mais dans les faits, elle fait du cinéma et elle gagne sa vie à l'école d'art visuel de Genève. Voilà, alors voilà nos deux amies prêtes à nous raconter ce qu'elles ont fait dans ce train de la paix qui a suivi le trajet Helsinki-Pékin. Donc bien sûr, vous pouvez l'imaginer, train qui se lie très précisément avec la conférence internationale des femmes organisées par l'ONU et le forum des femmes surtout, organisé en parallèle à Pékin. Donc ce forum et cette conférence qui devait avoir lieu, qui a eu lieu au début septembre, et le train a pris 3 semaines pour faire ce long trajet et permettre à toutes sortes de femmes de se rencontrer. Alors Mé et Isabelle, j'aimerais que vous me racontiez tout d'abord quel était le projet de la WILF, donc on va souvent dire WILF parce que c'est plus court, donc le projet de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Quelles étaient leurs idées au point de départ en mettant sur pied ce train, précisons-le, qui est un train spécial pour les femmes, il n'y avait que vous dans ce train-là.
D'abord, il faut peut-être expliquer que la WILF est une organisation non gouvernementale et que cette année, elle fêtait son 80e anniversaire. Et pour marquer d'une pierre blanche cet anniversaire, il fallait organiser quelque chose d'un peu exceptionnel. Et ça tombait bien puisque cette année, il y avait la conférence sur les femmes à Pékin. Et pourquoi ne pas y aller autrement qu'en avion, d'y aller en train ? Donc, elles ont décidé d'organiser ce train spécial où il y avait environ 200 participantes. Et le train avait aussi comme particularité, évidemment, c'était de pouvoir travailler pendant 3 semaines sur les grands thèmes, notamment la paix, pour arriver au forum de ONG à Pékin. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'ateliers qui se sont organisés. Il y avait aussi une rolling school, c'est-à-dire qu'il y avait une école roulante. C'était surtout pour les jeunes participantes qui pouvaient donner leur avis, faire un statement, comme elles appellent, pour pouvoir le présenter au forum de l'ONG. Donc,
voilà. Nous reviendrons en détail sur ces activités qui ont eu lieu à l'intérieur du train, mais tu nous raconteras un petit peu plus en détail encore ensuite tout à l'heure. Et puis, l'idée était donc de faire des arrêts, qu'il y ait à la fois ce qui se passait dans le train et à l'extérieur.
Alors, le but, c'était de rencontrer évidemment les femmes dans les arrêts et d'essayer d'avoir des échanges et de récolter un petit peu toutes les demandes de toutes les femmes pour pouvoir arriver avec des récriminations, disons, ou en tout cas des problèmes qui se posent pratiquement à Pékin. Mais la Ligue a décidé de partir depuis, il faut aussi dire pourquoi on n'est pas parti de Genève et qu'on est parti d'Helsinki.
C'est que... Parce que donc la Ligue a son siège à Genève.
Exactement.
Voilà l'explication à donner. Oui.
Et donc on est parti d'Helsinki parce que c'est là que se tenait le 26e congrès de la Ligue. Donc c'est là que toutes les participantes du monde entier se sont retrouvées pour ce point de départ depuis Helsinki.
Il y avait donc juste encore une chose, mais il y avait plusieurs trains qui ont fait le trajet Pékin. Hein. Il y a eu aussi un train de français, je crois.
Alors, il y a eu trois trains. Il y a eu celui qui est parti de Paris et il y a eu celui, je pense, celui qui est parti aussi de Varsovie. Mais l'idée principale, disons, celles qui ont eu l'idée d'organiser un train comme ça, les premières, ça a été la Ligue internationale des femmes à Genève.
Disons que ce train-là avait la particularité de prendre le temps d'aller jusqu'à Pékin, donc les trois semaines dont on a parlé tout à l'heure, je ne crois pas que c'est le cas des deux autres trains, qui simplement, les femmes faisaient le voyage ensemble, mais il n'y avait pas les objectifs du train.
Il n'y avait pas d'arrêt.
Voilà. Alors Isabelle, vous étiez des femmes de Genève, vous n'étiez pas que les deux d'ailleurs, il y avait d'autres femmes, mais vous aviez un projet bien particulier qui a fait que vous avez demandé à la Ligue de pouvoir être participante de ce train. Quel était ce projet ?
C'est-à-dire effectivement que comme il y a beaucoup il y avait 250 places ou 200 à peu près places, et puis qu'il y avait beaucoup de demandes, la Ligue a dû quand même faire une sélection de toutes les femmes. Et nous, on avait comme projet de documenter en fait le trajet au niveau filmique, parce qu'évidemment qu'on peut s'imaginer qu'un train, c'est un des plus beaux travelling qu'on puisse faire. Donc nous, on est partis à 4 au départ de Genève, en se regroupant comme ça par amitié et simplement en découvrant au fond que l'une et l'autre on a des capacités tout à fait aptes à monter finalement un groupe de travail comme une équipe de films. Donc on est parti comme ça.
Mais 4 femmes concernées, soit par le cinéma, soit par le son, soit par
voilà,
un journalisme, enfin
voilà,
du métier quand
voilà,
même.
Voilà, du métier. Mmh. Et ça nous permettait de pouvoir monter une équipe. Donc on est parti comme ça. Et puis effectivement, ça a été notre travail tout le long. On a essayé de documenter simplement ce voyage, à savoir qu'est-ce qui se passe dans le train, de documenter chaque arrêt, d'essayer d'interviewer des femmes, de prendre des sons, enfin, vous allez entendre. Et voilà.
Juste précisons-le, donc vous avez mené une vie plutôt agitée dans ce train parce que vous, peut-être en plus de ce que les autres femmes faisaient dans le train, à savoir suivre les activités dont nous reparlons tout à l'heure mais dont nous a déjà parlé un petit peu, mais vous courriez toujours dans tous les sens, y compris aux arrêts.
Effectivement, il fallait toujours être...
Qu'on s'imagine un peu votre rythme de vie.
Au début. Alors le rythme de vie, c'est simple, c'est descendre, monter du train, non seulement avec nos propres bagages, mais évidemment avec tout l'équipement pour le travail, donc caméra, prise de son, etc. Puis d'être évidemment toujours au moment là où ça se passe, donc d'être toujours devant ou derrière, parce que ça se passe derrière, mais enfin d'essayer d'être toujours là où les choses se passent. Et puis effectivement, on n'a pas perdu de temps, il n'y avait pas de temps à perdre, donc on était sans arrêt sur la brèche, et sans arrêt à courir, à interviewer des gens, préparer des rendez-vous pour le lendemain, organiser, programmer, faire des briefings, se retrouver, essayer de discuter ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'il faut faire demain, qui il faut voir, qui va interviewer qui. Enfin, c'était constamment, on était sur le qui-vive. Et bon, voilà, comme ça, moi j'ai l'impression qu'on a rempli un temps qui était accordéon, parce que tout d'un coup on avait un temps énorme, et que ça a passé quand même très vite finalement tout ça.
Il reste encore une chose peut-être à expliquer à nos auditrices et auditeurs, c'est que partir comme ça dans ce train au niveau financier, c'est pas une petite affaire. D'abord, la Ligue demandait un prix pour le voyage qui était déjà assez coûteux, plus vous aviez du matériel à réunir, etc. Comment vous avez fait ? Chacune a mis de sa poche le prix de son voyage ?
Bon, alors effectivement, nous, on a mis chacune de notre poche le prix du voyage. On a essayé de monter une production pour le film, et puis ça a l'air de pas trop mal aller. On a reçu un peu d'argent, donc on va...
Vous avez sollicité des groupes de femmes,
voilà, des groupes de femmes, des instances qui donnent de l'argent pour du documentaire, enfin des films documentaires.
Et le projet train intéressait certains organismes.
Bien sûr.
Pas forcément que des organismes de femmes d'ailleurs.
Non. Mais c'est bien connu que les organismes de femmes, elles n'ont pas d'argent, donc elles ont soutenu dans leurs possibilités. Mais bien sûr qu'on a eu des échos très positifs et puis que ça va bien. Maintenant, il est évident que la WILP, elle n'avait en tout cas rien au niveau financier à mettre dans notre projet, puisqu'elle avait déjà tout organisé, le trajet. Et puis que même au sein des femmes qui étaient dans le train, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont été subventionnées, parce que c'est évident que ça coûtait quand même très cher, quoi. Donc il y en a beaucoup qui ont pu participer seulement grâce à des subventions, qu'elles ont trouvé des bourses et des choses comme ça.
Ça n'a pas écarté systématiquement les femmes du Sud, par exemple ?
Bien sûr, ça c'était un peu le drame. C'est qu'il y avait beaucoup de représentants des pays nord-américains et européens. Évidemment, le Sud, c'était dramatiquement sous-représenté. Mais enfin, représenté par quelques exemples qui étaient magnifiques. On avait deux femmes qui venaient de l'Afrique qui étaient vraiment magnifiques.
Faites-nous vite comme ça. On ne va pas énumérer les 233 participantes, mais quand même, faites-nous un petit tableau. Et je crois qu'il y avait des hommes, non ? Un petit 10% avait été réservé aux hommes.
Alors, il y avait quelques maris, ouais, des charmants maris qui accompagnaient gracieusement leur dame. Et puis, il y avait, entre autres, toute l'agence de voyage était représentée. Enfin, étaient représentés les gens qui sont occupés de ça. Il y avait plusieurs hommes. Et puis, il y avait donc encore deux photographes ou quelque chose comme ça. Et il y a deux hommes encore, des journalistes italiens qui sont montés, je ne sais plus où. Alors, qui ont quitté, je ne sais plus où. Mm-hmm. Mais enfin, comme ça.
Mais des hommes qui s'intéressaient particulièrement aux discussions, aux débats de là, pas particulièrement. Donc.
Bien sûr. Moi, je dirais oui aussi, parce que c'est souvent ces femmes qui militent. De toute façon, elles ont des maris qui sont d'accord avec leur militantisme. Et en l'occurrence, là, c'était souvent des gens qui avaient un propos clair de militant. Pas forcément dirigé envers le militantisme féminin, mais quand même pour des bonnes causes, quoi.
Pour la paix.
Et aussi pour la paix.
Et alors, une sorte de petit survol des participantes. Alors, vous disiez beaucoup de Nord-Américaines, surtout des Américaines tout court, je suppose, quelques Canadiennes.
quelques Canadiennes. Il y avait effectivement Taïba qui vient du Soudan, il y a Aïché qui vient d'Istanbul, des Indiennes, plusieurs Indiennes de quatre coins différents, donc des visages tout à fait différents de l'Inde. Il y avait une Roumaine, il y avait
une Autrichienne, Allemande.
Il y avait
Hollande,
une Belge, une Italienne, plusieurs Allemandes, des Hollandaises. Il y avait même une aveugle.
C'est une nationalité. Une aveugle de quelle nationalité ?
Elle était tellement drôle. Je ne sais plus même d'où elle vient. Moi, je ne me souviens pas d'où elle vient, mais enfin.
Ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'âge des participantes avait une moyenne d'environ 53 ans. Et donc,
les militantes vieillissent, dis donc.
C'est-à-dire qu'il y avait souvent des femmes qui, au fond, avaient peut-être un peu d'argent de côté, puis qui avaient milité toute leur vie, puis qui faisaient comme ça un dernier.
Et qui avaient le temps de passer trois semaines dans un train.
Mm-hmm. Qui faisaient comme ça un dernier acte pour la paix. C'était très beau, ça. C'était des femmes tout à fait incroyable, parce que la signora qui a 87 ans, elle a porté son bagage tout le voyage, elle a pas chiné, elle n'est pas tombée malade, elle était
en forme.
Il y avait une dame de 87 ans qui a voyagé avec vous.
Eh bien, dis donc.
Alors, tout de suite, on va écouter un des premiers sons que vous nous avez ramenés. C'est un concert de musique folklorique que vous avez pu suivre. On vous accueillait comme ça sur le quai avec en musique. C'était à Sofia, je crois, non ?
Alors, on nous a pas... À Sofia, comme on arrivait 2 heures trop tôt, c'était la seule fois qu'on est arrivé trop tôt. Évidemment qu'il n'y avait personne pour nous accueillir. Mais enfin, le lendemain, on a quand même eu droit à un concert. Après avoir eu tous les meetings et toutes les discussions avec les groupes de femmes, on a eu droit à un magnifique concert d'un groupe folklorique de la région. Et puis, c'est des voix a cappella qui ressemblent un peu aux voix bulgares.
Thank you.
Alors, nous allons aborder maintenant la description du trajet qu'a suivi ce train. Parce que vous avez fait un immense périple, et d'ailleurs, parfois pas tellement logique, parce que vous êtes monté du nord au sud, du sud au nord, du nord au sud,
ouais,
à suivre votre trajet sur
la carte.
Alors,
la première chose que vous pourriez faire, c'est prendre une carte, avoir une carte du monde sous les yeux, parce qu'effectivement, on en a parcouru un bout. Alors, donc, on est parti de Helsinki, on s'est arrêté à Saint-Pétersbourg. Là, on avait pris un train tout à fait normal. Et à partir de Saint-Pétersbourg, on a pris ce train particulier. On est allé à Kiev, et puis on est allé à Bucarest, on est allé à Sofia. Là, on a pris des bus, on est descendu jusqu'à Istanbul, on est remonté par la même voie, au fond, finalement, quasi jusqu'à Moscou. On s'est arrêté à Odessa. De Odessa, on est allé en 4 jours jusqu'à Almaty, et de Almaty, on est allé en 4 jours jusqu'à Pékin. Alors évidemment que dans toutes ces villes, on s'arrêtait 2 jours, on arrivait un jour, on passait une nuit à l'hôtel et on repartait le lendemain. Dans toutes ces villes, on a été quand même accueillis par des groupements de femmes et il y avait toujours tout un programme qui était organisé par les femmes locales du pays. Et il y avait chaque fois, donc souvent un meeting central et éventuellement le lendemain, des ateliers ou workshops, comme on disait en anglais, avec des thèmes différents, dans lesquels les femmes du train se partageaient, puis allaient travailler, écouter, donner des informations, prendre des informations avec les femmes locales. Alors voilà, le premier ou celui dont j'ai peut-être...
Attends, juste une chose Isabelle. Le choix de ce que vous allez nous faire entendre aujourd'hui est dicté par quoi ? Tu as pris des coups de cœur ou au contraire des choses qui vous ont beaucoup frappé ? Qu'est-ce que finalement on va découvrir ? Parce qu'il y a tellement de choses. Combien vous avez de bandes enregistrées, de films ?
Alors là c'est effectivement un coup de cœur. Disons que ça s'est passé un peu spécial. On avait été invité par une des femmes du Parlement de Kiev a participé, ou disons a entré dans le Parlement de Kiev. Et du coup, on a là écouté plusieurs ministères qui commençaient à parler. Et puis, on a eu le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère de je ne sais plus quoi. On a eu des tas de discours.
Donc, on va arriver dans la gare de Kiev et vous nous raconterez cette rencontre avec le ministère de la Santé, entre autres. Là, c'est les manœuvres pour passer la frontière. Enfin, manœuvres. Est-ce que c'est vraiment des manœuvres ? C'est compliqué de passer les frontières ?
Passeport contrôle.
C'est compliqué ?
C'était relativement simple, finalement, effectivement. À part quelques anecdotes, mais c'était quand même assez simple.
Alors, votre rencontre à Kiev avec le ministère de la Santé, comment ça s'est passé ?
Eh bien, d'abord, le ministre nous a fait une espèce de discours sur la condition des femmes. Et notamment, il a dit que les femmes avaient le droit, avaient des droits au niveau des choix contraceptifs, etc., etc. Donc, en fait, pour lui, tout allait bien. Il n'y avait pas de problème. Et en fait, moi, je suis sortie du Parlement parce que les discours, j'en avais assez entendu. Et j'étais sur les marches du Parlement quand soudain, un homme sort en courant quasiment. Et il parle en français et me dit « c'est un scandale, il est en train de raconter n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. » Bon, alors je lui dis « mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors est-ce qu'on a moyen d'avoir un autre son de cloche ?» Je lui dis « est-ce qu'on peut aller dans la rue et faire un micro-trottoir ?» Donc du coup, il me dit « oui, je suis journaliste, je parle couramment français et russe. » Donc je cours dans le Parlement chercher le reste de l'équipe et on s'embarque pas très très loin. Et voilà, on va écouter...
Mais juste avant que nous écoutions les rencontres que vous avez faites, donc simplement en tendant votre micro sur le trottoir, qu'est-ce qu'avait dit le ministre de la Santé contre lequel s'élevait si fortement ce journaliste ?
Que les femmes avaient des choix contraceptifs, comme chez nous, et qu'en fait, d'après lui, c'était pas vrai.
Donc sait déjà un petit peu de par ici qu'effectivement, apparemment, le seul choix contraceptif qu'ont les femmes, c'est l'avortement. Est-ce que le ministre de la Santé en avait parlé ?
Lui, il a dit effectivement que les femmes avaient le droit à l'avortement, mais pas dans le sens de contraceptif, dans le sens où elles pouvaient le faire si elles ne désiraient pas un enfant.
Donc il avait l'air d'être fier de la liberté.
Voilà, ça, exactement.
C'était l'avortement est libre dans leur pays.
Mais pas dans le bon sens du terme.
Pas dans le bon sens du terme.
Parce que c'est le seul moyen contraceptif qu'elles ont.
Donc, vous, par vos questions, donc, entre autres celles qui vont être posées par le journaliste qui parle russe, vous cherchiez à savoir justement ça, qu'elle, finalement, comment les femmes faisaient.
Ben, comment elles s'en sortent, elles, puisque visiblement, on ne les aide pas beaucoup. Ce n'est pas le ministère de la Santé qui va faire de la prévention ou qui va donner des indications. J'entends mettre sur pied un système de contraception.
Ou de planning familial.
Dans une région qui, je le rappelle, a été largement touchée par l'accident de Tchernobyl. Donc, en plus de ça, tout un problème lié à la santé. Vraiment.
C'est-à-dire que les femmes craignent d'avoir des enfants anormaux.
Simplement d'avoir des enfants anormaux.
D'accord. Alors, nous partons avec vous sur les trottoirs de Kiev.
Абсолютно никаких.
Aucun changement depuis l'écroulement de l'Union soviétique. А что, а дальше? Что вас тревожит больше всего? Например, вопрос контрацепции. Что изменилось в этом плане? Аборт раньше являлся самым основным способом.
Да, конечно. Еще в принципе тоже, вы знаете, потому что никакой рекламы о контрацепции у нас нету, и поэтому очень тяжело.
Да, потом я хотел principal méthode, parce qu'il y a pas de publicité pour les autres, personne n'en sait rien.
То есть нужно экспериментировать все на себе.
Pour faire des expériences sur soi-même. И в общем-то, что касается права на работу, раньше женщины работали в очень тяжелых условиях, сейчас очень много безработицы. Как бы это лично вас трогало?
Нет, лично я с этим не сталкивалась, так что трудно сказать.
А в общем-то, женщины имеют право на работу. Как вы относитесь к факту, что там очень мало женщин, например, в Верховной Раде?
Трудно сказать. Дело в том, что политика у нас такое дело не очень чистоплотное, поэтому я думаю, что женщина просто не хочет этим заниматься.
Je crois que la politique est assez sale ici, c'est pour ça qu'il y a si peu de femmes là-dedans.
Извините, я тороплюсь.
Спасибо большое.
До свидания.
Спасибо. Например, контрацепция. Были изменения? Аборт раньше был основным способом, а сейчас?
Ну, сейчас то же самое. Ну, сейчас просто-напросто люди боятся рождаемости детей. Это страшно. Потому что практически в такой
Почему
нынешней
боятся?
Ситуации очень тяжело воспитывать ребенка.
Очень тяжело.
L'avortement est resté la méthode principale et en plus les femmes ont peur de naître des enfants et, étant donné la situation économique actuelle.
C'est la situation économique. Да, тоже боимся. Да.
В каком плане? Что вас беспокоит?
Беспокоит, чтобы ребенок был полноценно родился, здоровый, чтобы был.
Cela représente aussi des difficultés dans la mesure que on veut évidemment que nos enfants naissent normalement. Что касается права на работу, и вот сейчас безработица очень распространена среди женщин.
Хорошо оплачиваемую работу тяжело найти.
C'est vraiment difficile pour une femme de trouver un travail normal qui est bien payé. Можно узнать, как вас зовут, пока не...
Лариса.
Это Лариса?
Я вам могу сказать.
Есть ли равенство между мужчинами и женщинами?
Ну, конечно.
Есть?
Конечно, есть.
Это при том, что есть эгалите, эгалите existe entre les femmes et les hommes. И что касается права на работу, права на оплаты, особенно учитывая экономическую ситуацию.
Ну, мужчины, конечно, у мужчин зарплата выше.
Les hommes gagnent plus que les femmes, c'est certain.
Mm-hmm. Женщин, конечно, меньше зарплата.
Да, конечно, что это означает, конечно.
Ну как, меньше зарплата, чем у мужчины. У женщины меньше зарплата. Конечно, нет. Да, нет.
А как надо изменить ситуацию?
Ну, я знаю, как изменить. Не могу я вам сказать.
Elle dit que c'est certain que les hommes gagnent plus que les femmes et c'est injuste, mais aucune idée comment passer à améliorer la situation. De la paix. D'avoir, что обозначает мир? Как создать мир на планете? Есть ли угроза? Как вы относитесь к этому?
Мир, я думаю, должен быть для всей страны. Понимаете, мир как? Надо как-то дружно сплачиваться. Вот. Это должен мир быть.
Ouais, vous essayez de trouver un langage en commun avec tout le monde pour que, évidemment, que la paix soit établie.
Alors Isabelle, votre traducteur, très sympa de venir avec vous dans la rue, mais il nous a quand même peu traduit ce que les femmes ont dit. Entre-temps, vous avez pu rediscuter avec lui. Donc, qu'est-ce qu'exprimaient ces femmes un petit peu plus en détail que ce qu'on a entendu?
Alors en détail, la première, elle dit que finalement, il n'y a pas de moyen de contraception. Donc, il y a effectivement l'avortement au moment où on est dans le problème. Que même dans le fait que l'avortement est libre, il faut dire que comme c'est la seule chose qu'on fait, finalement, il y en a qui ont 5, 10 avortements derrière elles. Donc, c'est un énorme problème. Et qu'en plus de pouvoir le faire tranquillement dans un hôpital, souvent, elles doivent expérimenter sur elles-mêmes, comme elle dit. La deuxième raison pour laquelle elles ne font pas d'enfants, c'est qu'elles ont peur qu'ils soient anormaux. Parce qu'évidemment, maintenant qu'il y a de la radioactivité partout, on ne sait pas ce que ça donne. Et puis la troisième raison pour laquelle elles ne font pas d'enfants, c'est que pour des problèmes simplement économiques, elles ne peuvent pas les élever. Et que là, il n'y a aucun ministère qui va les aider, ça on peut bien s'imaginer. Puis que la troisième, ou disons, une des difficultés encore, c'est qu'elles ne savent simplement pas comment faire. Parce qu'elles ne savent pas se mettre ensemble, elles n'ont encore pas assez de structure pour se mettre ensemble et essayer de se grouper pour avoir plus de voix. Dans ce sens-là, c'était bien qu'on passe, parce qu'effectivement, nous, on peut leur donner peut-être quelques indications et puis transmettre ça plus loin. Comme c'était l'idée, c'est d'aller jusqu'à Pékin pour essayer de dire ça plus haut et plus fort dans des
instances internationales.
Des instances internationales.
Je crois que cette rencontre vous a beaucoup frappé, non? Le fait que ces femmes disent « on ne veut plus faire d'enfants parce qu'on n'ose pas », ça vous a particulièrement frappé et choqué?
Ben oui, parce que finalement, c'est la base de la société de demain. Alors voilà, on ne sait pas très bien ce qui se passera demain. Et que visiblement, personne n'est prêt à prendre ça en main, vraiment. On a eu aussi l'occasion d'entendre le ministère de l'Énergie, je crois, qui disait « oui, effectivement, c'est un grand problème, Tchernobyl, on est en train de nettoyer, mais il y a un énorme travail et ils ne savent même pas eux comment faire, parce qu'il n'y a pas d'argent. »
Enfin, le discours est toujours le même, c'est-à-dire que le ministre de l'Environnement, lui, il dit « de toute façon, on n'a pas d'argent, donc on attend que l'Europe nous aide à nettoyer et à trouver d'autres solutions, mais que pour le moment, comme il n'y en a pas, on continue à utiliser l'énergie nucléaire. » Donc ça, c'est toujours le même discours.
On sait qu'effectivement, la Russie a négocié avec les pays d'Occident pour, monétairement parlant, pour arrêter définitivement Tchernobyl. C'est une décision qui a été prise il n'y a pas très longtemps. Alors, et vous avez l'impression que quand les femmes vous rencontrent dans la rue comme ça, elles parlent ouvertement, librement, enfin, vous avez senti que dans l'atmosphère dans la rue, même si vous étiez peut-être jamais allé avant dans ces villes-là, il y a une autre atmosphère que ce qu'on a pu entendre dire sur l'avant Glasnost.
En tout cas, elles ont parlé librement et puis elles étaient même très... Moi, j'avais l'impression contente de pouvoir le dire et de pouvoir en parler à quelqu'un. Moi, j'avais plutôt cette impression. Ça s'est de toute façon passé très vite. On n'a pas eu l'occasion de parler plus longtemps avec elles qu'on ne peut pas parler. Mais c'était relativement... c'était ouvert.
Elles n'étaient pas surprises des questions que vous leur posiez? Même rapidement,
non,
comme ça, sur un trottoir?
Non, elles ont répondu vite. On l'entend dans l'interview, c'est très clair, très vite. Bon, on ne comprend pas ce qu'elles disent, mais... Mais c'était quand même très clair, quoi.
Alors, on reprend le train, si je comprends bien.
Voilà, alors on est à Kiev et on va effectivement prendre le train, partir pour Bucarest.
Et sur le quai, il y a...
Ah oui, c'est vrai que sur le quai, il y a encore des tas de femmes qui nous disent au revoir. Il y a même la fanfare qui est là, qui fait encore tonner ses trompettes avant qu'on quitte le quai au fond de la gare de Kiev. Thank you.
Третий, второй пассажирский поезд Львова. Прибывает.